France Culture.
France Culture, question du soir, Antoine Dulster.
Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a finalement dû reculer au dernier moment sous la pression conjuguée de la France et de l'Italie. Jeudi dernier, la signature de l'accord de libre-échange entre l'Europe et le Mercosur a été repoussée à janvier prochain, au terme d'un Conseil européen particulièrement houleux, sur fond de mobilisation de plusieurs milliers d'agriculteurs à Bruxelles, dans les capitales européennes et latino-américaines. Ce calendrier et ce changement de dernière minute interrogent. Car au-delà de craintes bien réelles dans le secteur agricole, singulièrement en France, l'UE pourrait sortir gagnante de cet accord de libre-échange. Elle pourrait surtout sortir perdante d'un recul final, alors que le marché commun de l'Amérique du Sud se cherche des partenaires et soigne ses relations avec la Chine. Quels sont les enjeux de cette négociation commerciale de plus d'un quart de siècle entre l'Union européenne et le Mercosur? La France a-t-elle de bonnes raisons de vouloir renégocier ou même annuler ce projet d'accord? Nous en parlons ce soir avec trois invités. Mathilde Dupré, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avec nous à distance, vous êtes co-directrice de l'Institut Veblen. Jean-Luc Demarty, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes, vous, ancien collaborateur de Jacques Delors, vous êtes ancien directeur général du commerce extérieur entre 2011 et 2019, ancien directeur général de l'agriculture entre 2005 et 2010 à la Commission européenne, et Alain Guillemolle, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à La Croix, spécialiste des questions européennes. Merci à tous les trois d'être au micro de Questions du soir.
J'ai appris que les Européens n'allaient pas réussir à approuver la ratification du texte. C'est compliqué car l'Italie et la France ne veulent pas le faire en raison de problèmes politiques internes. Et je les ai déjà prévenus. Si on ne le fait pas maintenant, le Brésil ne signera plus l'accord tant que je serai président. Ça fait 26 ans que nous attendons cet accord. 26 ans. L'accord est plus favorable pour eux que pour nous. Macron ne veut pas le faire à cause de leurs agriculteurs et l'Italie non plus. On ne sait pas pourquoi. Je vais assister à la réunion de l'UNASUR en espérant qu'ils acceptent de signer le Mercosur. Et si jamais ils disent non, nous serons désormais fermes avec eux. Parce que nous avons cédé sur tout ce qu'il était possible de céder diplomatiquement.
Voilà, quelques mots du président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva qui réagissait aux tergiversations européennes le 17 décembre dernier. La signature de l'accord UE-Mercosur est finalement repoussée à janvier. Que faut-il attendre désormais de ce calendrier? Une renégociation est-elle possible dans un calendrier aussi contraint? Mathilde Dupré.
Alors non, une renégociation n'est certainement pas possible et il faut savoir que le contenu de l'accord n'a quasiment pas changé depuis 2019 quand un premier accord politique avait été atteint entre les pays de l'Union européenne et les pays du Mercosur et il y a eu juste des aménagements à la marge qui ont eu lieu, voire sur certains points des éléments qui ont même aggravé certaines dispositions de l'accord, mais le contenu de l'accord en tant que tel n'a pas changé depuis 2019 et il ne changera pas d'ici le 12 janvier.
Alors Jean-Luc Demarty, comment interprétez-vous ces tergiversations européennes avec ces hésitations de l'Italie qui se rallie du moins temporairement à la position française?
Alors tout d'abord, je voudrais dire que je suis d'accord avec Madame Dupré, ça probablement un de mes rares points d'accord avec elle ce soir, que la renégociation n'est pas possible. Deuxièmement, cet accord a été amélioré et pas du tout à la marge, contrairement à ce que dit Madame Dupré, puisque il y a eu un accord politique qui a été conclu lorsque j'étais encore directeur général du commerce extérieur en 2019, mais quand l'accord a été conclu fin 2024 à Montevideo, a été ajouté l'accord de Paris sur le climat, clause essentielle, ce qui est quelque chose d'exceptionnel dont on curieusement ne parle pas, et les environnementalistes comme l'Institut Veblen ne parlent pas. Ça veut dire quoi? C'est pratiquement dans aucun accord, il y a juste l'accord avec la Nouvelle-Zélande, ça veut dire que, clause essentielle, que si l'accord de Paris sur le climat n'est pas respecté, il peut y avoir une suspension partielle ou totale de l'accord. Deuxièmement, l'accord de Glasgow Glasgow, qui est un des accords de la COP, je ne sais plus combien, en tout cas, je crois que c'était en 2021, qui interdit la déforestation à partir de 2030, qui est un accord juridiquement non contraignant, donc conclu dans une COP, a été transformé une disposition juridiquement contraignante à l'intérieur de l'accord Mercosur définitif. Alors, dire que ça a été amélioré seulement à la marge, à mon avis, c'est tout à fait faux. Alors, en ce qui concerne les perspectives, tout d'abord, il faut rappeler qu'un accord de ce type nécessite une majorité qualifiée. Bon, on sait très bien que la France ne sera jamais en mesure de voter pour cet accord. C'est curieusement d'ailleurs, parce qu'on n'a été jamais capable d'expliquer correctement ce qu'il y avait dans cet accord qui est aussi bénéficiaire à la France et qui ne pose pas de problème à l'agriculture française, contrairement à ce qu'on raconte, pas de problème majeur. Deuxièmement, l'Italie n'a pas rejoint la France. L'Italie a dit « je veux attendre » parce qu'il y a besoin d'une majorité qualifiée et l'Italie est indispensable pour la majorité qualifiée. Et Madame Meloni le sait. Et très habilement, je veux dire, elle cherche à négocier des contreparties, non pas dans l'accord, mais à l'extérieur de l'accord, parce qu'elle sait que c'est pas négociable, et elle cherche des améliorations dans la future politique agricole commune qui a été proposée par la Commission européenne en juillet dernier. D'ailleurs, proposition qui, à mon avis, est mauvaise, et je trouve pas illégitime que Madame Meloni cherche à obtenir des améliorations de cette proposition. Donc voilà où on en est. Moi, mon sentiment, c'est que Madame Meloni rejoindra la majorité qualifiée, enfin permettra la majorité qualifiée en janvier, et que l'accord sera signé dans courant janvier par Madame von der Leyen en tant que représentant de l'Union européenne. Ça doit être autorisé, bien entendu, par la majorité qualifiée des États membres. Et après, ça reviendra, c'est pas la fin de l'histoire, ça reviendra, il faut que ce soit ratifié toujours à la majorité qualifiée des États membres, mais aussi à la majorité simple du Parlement européen, ce qui sera probablement plus tendu que la majorité qualifiée au niveau des États membres.
Alors, pour achever ce premier tour de table, Alain Guillemol, que vous inspire à vous aussi ce calendrier et ce revirement?
Oui, c'est-à-dire ce qu'on a vu là, c'est la déception de Lula, du président brésilien, parce que bon, c'est vrai que le Mercosur est une organisation qui a une présidence tournante et chacun des quatre présidents des quatre pays du Mercosur exerce un mandat d'un an, et donc le mandat de Lula se termine. Et évidemment, lui, il espérait très fort terminer son mandat par cette signature qui serait qui pourrait accrocher à sa boutonnière comme un succès. Et donc, il exprime sa déception. Maintenant, la signature est envisagée pour le 12 janvier, donc c'est très proche, hein, c'est demain. Et je suis d'accord avec les interlocuteurs qui ont parlé avant moi. Je pense qu'il n'est pas question de renégocier cet accord d'ici le 12 janvier. En revanche, ce qui est en discussion est ce que pousse la France, puisque j'étais au Conseil européen à Bruxelles et on a parlé avec les diplomates qui nous expliquaient un petit peu ce qu'ils essayaient d'obtenir. C'était il y a un acte juridique qui est en discussion à la Commission européenne qui va accompagner le traité et à l'intérieur, alors donc les Français poussent pour avoir des clauses de sauvegarde. Alors de quoi il s'agit avec des clauses de sauvegarde? C'est des clauses qui diraient que en cas de déstabilisation des marchés du marché européen sur une catégorie de produits, on pourrait suspendre l'accord pour cette catégorie de produits, c'est-à-dire stopper au-delà d'un certain quota l'admission de ce produit sur le marché européen. Et puis ensuite, il demande des clauses miroirs, c'est-à-dire
la réciprocité.
Donc la réciprocité sur un certain nombre de techniques de production ou de règlements européens, que des choses qui sont obligatoires pour les producteurs européens deviennent aussi obligatoires pour les producteurs des pays du Mercosur. Et puis enfin, ils demandent l'augmentation du nombre de contrôles. Puisque une des questions qui est posée, un certain nombre de personnes qui contestent l'accord commercial avec le Mercosur disent le problème principal qui va se poser, c'est l'introduction de produits qui ne sont pas conformes aux normes européennes. Et même si on veut faire respecter les règlements européens, on n'y arrive pas, faute de contrôle. Et donc, la Commission européenne est en train de promettre d'augmenter les contrôles. Et c'est une des questions qui se négocient en coulisses, en marge de cet accord. Ce ne sera pas dans l'accord, mais en marge de cet accord, de façon à le rendre un peu plus acceptable.
Alors, on va entrer dans un instant dans le détail, précisément, de ce projet d'accord entre le Mercosur et l'Union européenne. Mais j'aimerais vous entendre encore une fois, si vous le voulez bien, Jean-Luc Demarty, sur la question de la temporalité. Pourquoi évoquer un contexte favorable à une signature maintenant ? C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Une signature doit avoir lieu rapidement, sinon la présidence tournante du Mercosur, qui sera assumée, je crois, par le Paraguay, serait moins favorable. Il y a urgence réellement à signer alors que les choses sont en l'état actuellement ?
Tout simplement, si on ne signe pas maintenant, je veux dire, l'accord est mort. Parce que les Mercosuriens, moi je suis d'accord que quand Lula dit que cet accord est plus favorable à l'Union européenne qu'au Mercosur. Les chiffres le montrent. Donc on pourra en parler plus tard. Donc si on demande des concessions supplémentaires, je veux dire, c'est clair que ça n'ira nulle part. Le Brésil y est favorable. L'Argentine est plutôt favorable parce qu'elle aime la libéralisation commerciale, mais elle regarde plutôt vers les États-Unis. Et le Paraguay et l'Uruguay, bon, qui sont des junior partners au Mercosur, mais bon, ils sont là. Eux regardent plutôt vers les États-Unis. Donc, si jamais on ne conclut pas maintenant, c'est fini. C'est vraiment, c'est la fin. Et si on ne conclut pas, ça veut dire que c'est un grand marché qui se ferme pour l'Union européenne, et ça ira beaucoup plus loin, parce que ça veut dire que l'Union européenne sera considérée comme non fiable, incapable de conclure une négociation qu'elle a normalement, de ratifier une négociation qu'elle a conclue et qui lui est très favorable. Donc, les négociations importantes en cours avec l'Inde et certains pays du sud-est asiatique, à mon avis, ne seront pas prometteuses dans ce cadre-là. Donc voilà en gros les enjeux de tout cela. Et les demandes supplémentaires de la France a toujours des demandes supplémentaires, donc elles ne sont pas possibles. Enfin, la clause de sauvegarde, elle est là. Et de toute façon, je précise que la principale sauvegarde, ce n'est pas la clause de sauvegarde. La principale sauvegarde, ce sont les contingents tarifaires très très bas qu'on a accordés aux pays du Mercosur sur les produits les plus sensibles, le bœuf, la volaille et le sucre, qui font à peu près 1,5% de la consommation de l'Union européenne. Donc prétendre, il n'y a à peu près aucune chance que ceci entraîne des grandes perturbations, et donc peut-être que si c'est bien d'avoir une clause de sauvegarde qui, en cas de nécessité, pourrait être déclenchée, mais la probabilité que ceci se passe est très très faible, compte tenu justement des limites très très fortes qui ont été mises à l'accès au marché de l'Union européenne dans le cadre de cette négociation. Et deuxièmement, les clauses miroirs, excusez-moi, mais c'est totalement irréaliste, c'est une machine qui a été inventée par Emmanuel Macron pour tuer la négociation. Et je vais m'expliquer. Tous les produits qui rentrent dans l'Union européenne doivent respecter, accord de libre-échange ou pas, nos normes sanitaires, phytosanitaires. Et les produits animaux ne peuvent pas avoir été engraissés à partir d'hormones ou d'antibiotiques, même s'il ne subsiste plus de traces dans les produits. Donc ça, c'est très clair. Alors bien sûr, le contrôle peut être améliorable. Il peut toujours être améliorable. Mais je précise que le contrôle individuel est de la responsabilité des États membres, individuels des États membres, pas de la Commission européenne. Bien sûr, elle peut encourager à faire davantage. La Commission européenne, elle est responsable de l'audit des systèmes de contrôle des pays tiers, et d'ailleurs à l'intérieur de l'Union européenne. Et d'ailleurs, des fraudes, il peut y en avoir, c'est clair. Il y en a eu, et on a déjà arrêté les importations, quand j'étais directeur général de l'agriculture, de viande bovine du Brésil en 2008, et à nouveau en 2017, parce qu'il y avait des problèmes. Et s'il le faut, on arrêtera. Et les clauses miroirs totales, ça veut dire qu'on demande aux Mercosuriens de s'aligner sur nos normes de production. Je parle pas des produits, je parle de la façon de produire sur l'environnement ou sur le bien-être animal, disons surtout sur l'environnement. Excusez-moi, c'est pas sérieux du tout, parce qu'on peut pas demander aux Brésiliens de s'aligner complètement sur nos normes pour un accès ridicule à notre marché de 1,5% de notre consommation intérieure. Et deuxièmement, nos agriculteurs touchent déjà 40 milliards d'euros d'aides directes, précisément pour compenser, 7 milliards d'euros en France, pour compenser l'écart de coûts de production entre les pays tiers les plus compétitifs comme le Mercosur et les coûts de production en Europe. Donc demander de s'aligner dans ces conditions, totalement sur les conditions de production, c'est demander de négocier le beurre et l'argent du beurre. Et moi, j'étais un des plus respectés négociateurs mondiaux en matière de commerce extérieur. Tous les négociateurs vous diront que négocier le beurre et l'argent du beurre, ça n'existe pas.
Alors Mathilde Dupré, donc on entend hein, dans ce propos de Jean-Luc Demarty, donc des négociations compliquées. Est-ce que vous entendez aussi de votre côté l'idée qu'il y aurait peut-être urgence pour l'Europe pour à se positionner dans une mondialisation dont les codes deviennent de plus en plus violents? Je fais référence notamment aux droits de douane exigés par les États-Unis de Trump. N'y a-t-il pas urgence à se rapprocher de ses partenaires, au premier rang desquels le Mercosur pour l'Europe, et n'y a-t-il pas donc péril en la demeure en cas d'échec ?
Alors l'urgence, elle est répétée année après année. On rejoue un peu la même scène chaque année avant Noël au moment du changement de présidence du Mercosur. C'était déjà le cas en 2023 pour la présidence précédente du Brésil du Mercosur. Je pense que c'est quand même difficile de faire croire aux gens que c'est toujours maintenant ou jamais, puisque à chaque fois, il est à nouveau question de l'accord 6 mois, puis 1 an après, puis 2 ans après. Et l'accord, il est en négociation depuis la fin des années 90, donc on n'est certainement pas à 6 mois près. Ensuite, il a beaucoup été dit que effectivement, on avait intérêt à renforcer les liens avec des pays qui seraient plus proches de nous sur la scène géopolitique. C'est certainement le cas du Brésil en ce moment, beaucoup moins de l'Argentine, hein, qui est un pays très aligné en ce moment sur les États-Unis, avec un dirigeant climato-sceptique qui est tenté aussi de suivre le président Trump par rapport à l'accord de Paris, etc. Et ce que je voulais quand même souligner, parce qu'on a effectivement des points de désaccord assez forts avec Monsieur De Marti, c'est que non, aujourd'hui, il n'est pas juste de dire qu'on importe des produits qui respectent nos normes et respectent nos normes de commercialisation, mais qui ne sont pas nos normes de production. Et effectivement, il y a une mesure miroir qui existe depuis longtemps sur la production de bœuf avec des hormones de croissance pour accélérer la croissance des animaux. Ça, c'est pour le coup une mesure qu'on applique aussi pour les produits importés. Par contre, aujourd'hui, on n'a pas l'équivalent pour les produits qui sont traités aux antibiotiques comme activateurs de croissance. Et justement, c'est un des sujets de différence de production entre les pays du Mercosur et les pays de l'Union européenne, puisqu'il y a usage d'antibiotiques comme additifs alimentaires pour accélérer la croissance des animaux, donc que ce soit pour la volaille ou pour la viande bovine. Et après, on a un énorme sujet qui est le sujet de l'utilisation des pesticides. Il faut savoir qu'on importe déjà massivement depuis les pays du Mercosur des produits agroalimentaires. Quand on regarde, il y a une étude très intéressante qui a été publiée en avril dernier par l'Observatoire européen sur la fiscalité, qui regarde la consommation européenne de céréales et d'oléagineux, et qui montre que les pays du Mercosur ne représentent que 6% de la consommation européenne de ces produits-là. Mais c'est déjà, quand on regarde l'empreinte pesticide de notre consommation, par contre, c'est un quart de notre empreinte pesticide. Parce que, en fait, les produits qui sont importés, ils sont 4 fois plus intensifs en pesticides que les produits qu'on fait dans l'Union européenne, notamment parce qu'ils sont traités avec des pesticides interdits dans l'Union européenne. Et le plus fou dans toute cette histoire, c'est qu'en fait, l'accord UE-Mercosur, il va baisser les droits de douane sur les exportations européennes de produits chimiques, y compris les pesticides interdits, qu'on exporte massivement aujourd'hui déjà vers le Brésil ou l'Argentine, et que là, on pourrait encore exporter davantage. Et ensuite, on va baisser les droits de douane sur les produits qui sont traités avec ces pesticides interdits et qu'on importe déjà massivement et qu'on pourrait importer encore plus. Donc, c'est exactement le genre de commerce qu'il ne faudrait plus favoriser si on est sérieux avec nos engagements en matière de biodiversité, en matière de climat, etc. Et c'est là où c'est un... pour nous, un logiciel de politique commerciale qui est complètement dépassé. Il faudrait être beaucoup plus sélectif sur les biens et services dont on veut promouvoir les échanges, sur les normes de production auxquelles ces produits sont faits, et peut-être envisager de resserrer les liens géostratégiquement avec ces pays-là par d'autres moyens que par de l'accès au marché réciproque.
Alors, on l'entend hein, dans votre propos, Mathilde Dupré, donc des réticences notamment sur ces questions environnementales. Jean-Luc De Marti, en quoi les clauses précises de l'accord favoriseraient les Européens? Est-ce qu'il y a des études avec des chiffres vraiment sur les impacts dans ces filières, alors agricoles, mais pas uniquement?
Je voudrais répondre à Madame Dupré sur
d'abord une réponse, ensuite voilà.
Oui. Donc, et après, je répondrai à votre question. Je ne peux pas laisser sans réagir. L'engraissement aux antibiotiques est interdit aussi en Europe et chez les produits importés. Ceci étant dit, je suis d'accord qu'il y a du retard à l'allumage sur le contrôle des antibiotiques dans l'Union européenne, notamment sur la volaille. Parce que c'est là où c'est davantage autorisé. Parce que les antibiotiques ne sont interdits pour l'engraissement en Europe que depuis 2006, tandis que les hormones sont interdites depuis 1987. Donc, on a un peu de retard à l'allumage. Ça, je ne le conteste pas. Et donc, il faut qu'on développe davantage les contrôles sur la question des antibiotiques et qui sont effectivement interdits. Ils sont pas autorisés, même s'ils sont autorisés au Brésil et ailleurs, les produits pourront pas rentrer. Et donc, si on les contrôle correctement. Donc là, de ce point de vue-là, c'est tout à fait clair. En ce qui concerne les pesticides, c'est un sujet un peu complexe. Parce qu'en réalité, les pesticides, il y a des pesticides autorisés en Europe et il y en a qui sont interdits pour des raisons de santé. Et il y a des pesticides interdits pour des raisons de santé en Europe qui sont autorisés dans les pays du Mercosur. Et effectivement, les règles de l'Organisation mondiale du commerce, à la différence, ne nous permettent pas d'interdire les produits qui sont produits avec ces pesticides interdits. Ce n'est pas possible de les interdire comme ça déjurés. Par contre, ce qu'on peut fixer, c'est des limites maximales de résidus. Or, qu'est-ce qu'on fait pour les produits qui utilisent des pesticides interdits en Europe pour des raisons de santé? On interdit, on fixe des limites maximales de résidus qui sont à la limite de détection, de détectabilité, c'est-à-dire 0,01 mg par kilo. Donc ça veut dire que si c'est de moins de 0,01 mg par kilo, effectivement, les produits peuvent rentrer. On peut pas les détecter d'ailleurs. Et à ce moment-là, évidemment. Je veux dire, ça revient, si ça dépasse cette limite, ça revient à une interdiction de facto. Donc, en réalité, il y a bien l'interdiction. Puis, vous avez des pesticides qui sont autorisés au Mercosur et qui ne sont pas autorisés en Europe, pas pour des raisons de santé, parce que nous, on n'est pas dans un climat tropical. Et donc, ça n'intéresse pas les entreprises de demander l'autorisation de ces produits en Europe. Et donc, pour ces produits, bien entendu, il n'y a pas de vrai problème de santé. Et donc on fixe aussi, on peut fixer, on n'est pas obligé, des limites maximales de résidus qui sont plus élevées. Compte tenu de ce qu'on sait de la dangerosité ou pas de ces produits. Donc il y a une différence et donc en réalité la santé des Européens n'est nullement menacée par tout ça. Donc là il faut pas exagérer sur cette affaire.
Donc cette question environnementale dont vous avez répondu à Mathilde Dupré sur la question que je vous posais autour des clauses de cet accord qui favoriserait l'économie européenne.
Oui. Alors l'étude la plus récente sur le sujet, l'étude quantitative, il y a eu des études publiées par la Commission européenne qui montrent un certain nombre de résultats qui sont positifs aussi. Et là, la dernière étude qui est fondée sur les mêmes méthodes que celle d'une étude indépendante fondée sur la même méthode que le centre commun de recherche de la Commission européenne, qui est un centre commun de recherche dans lequel il n'y a pas d'intervention politique. Donc cette étude qui a été publiée par le journal of Agriculture Economics par deux chercheurs économistes agricoles très très respectés, l'Irlandais Alan Matthews, un des plus célèbres, et le Français Alexandre Goin de l'INRAE de Rennes. Cette étude fondée donc sur un modèle d'équilibre général montre que l'Europe devrait gagner entre 0,2 et 0,4% du PIB dans cet accord, c'est-à-dire 40 à 80 milliards d'euros, ce qui est très important et beaucoup plus que les gains pour le Mercosur. Et donc il n'y a aucun doute là-dessus. Et deuxièmement, contrairement à ce qu'on raconte, les pertes pour l'agriculture sont très très faibles. C'est à peu près équilibré en termes de résultats global, parce qu'effectivement, il va y avoir des importations de viande bovine, de sucre et de volaille, comme je l'ai indiqué, mais pour des quantités assez faibles. Et on va exporter davantage de vins et spiritueux et de produits laitiers, par exemple. Et donc, tout ça s'annule à peu près. Et pour la viande bovine, on présentait que c'était dramatique. En réalité, cette étude montre que sur le revenu des producteurs de viande bovine, ça serait une baisse de 0,3%, c'est-à-dire l'épaisseur du trait. Et il faut rappeler que je m'en réjouis pour les producteurs de viande bovine que j'aime bien, notamment la viande bovine extensive que j'ai toujours soutenue quand j'étais directeur général. Je veux dire, le prix de la viande bovine à la production a doublé depuis 2019. Donc prétendre que ça va avoir des effets dramatiques, c'est proche du ridicule. Et donc enfin troisièmement, la Chine hier, je ne sais pas si vous le savez, a décidé des mesures scandaleuses anti-subvention contre l'Union européenne en matière de produits laitiers entre 30 et 42%, en gros autour de 30% pour la plupart des entreprises françaises, ce qui effectivement, en ne respectant à mon avis aucune règle, on ira à l'Organisation mondiale du commerce contre cela, mais on a besoin, je veux dire, ça va nous gêner au moins pendant 18 mois, et on a besoin justement de nouveaux marchés pour nos produits laitiers, et aussi pour nos vins et spiritueux, notamment à la lumière des mesures qui ont été prises par Donald Trump, des mesures protectionnistes prises par Donald Trump. Donc c'est légitime, et le Mercosur fait partie de ces nouveaux marchés que nous
cherchons et qui seront tout à fait productives pour nous. Donc il y a vraiment aucune raison de ne pas conclure cet accord.
Alors Alain Guillemolle, vous qui êtes journaliste en charge des questions européennes pour La Croix, c'est à vous vraiment que j'aimerais poser cette question. On parle des avantages pour l'Union européenne, des bénéfices pour l'Union européenne de cet accord avec le Mercosur, mais ce qu'on comprend un petit peu en creux dans les interventions des uns et des autres ce soir, c'est que ces avantages et ces bénéfices seraient très différenciés selon les filières, selon les pays, et c'est là que le bât blesse pour l'Union européenne, puisque c'est une union qui n'est pas si unie que ça, si vous me passez l'expression, l'Allemagne a des intérêts, la France en a d'autres. Est-ce que ça ne crée pas aussi un ensemble qui est très difficile à gouverner, à piloter vis-à-vis de l'extérieur, particulièrement dans ce genre de négociation qu'est cet accord avec le Mercosur?
Ah oui, tout à fait. C'est un peu la caractéristique de l'Union européenne, hein, que c'est une union entre 27 démocraties et qui fonctionne à travers la construction de compromis qui sont toujours compliqués, quels que soient les sujets. Hein, je veux dire, ce qui se passe avec le Mercosur est en fait assez habituel dans le cadre européen. C'est des l'agriculture a longtemps illustré ça par ce qu'on appelait les marathons agricoles, hein, les négociations autour de la PAC, etc., enfin, qui avec des nuits à Bruxelles, mais...
Des
nuits de négociation, voilà oui. Mais on a encore eu, jeudi dernier à Bruxelles, une très très longue soirée, où là, on discutait du prêt et du financement de l'Ukraine, et où il y avait un désaccord entre un certain nombre de pays européens, et où il a fallu des heures et des heures de discussion pour arriver à se mettre d'accord. Ce qu'on voit de l'Union européenne, c'est que dans les moments difficiles, dans les périodes de crise, elle arrive à des accords, quelquefois même au-delà de ce qui était espéré et attendu. Quand on est dans le cadre d'une négociation comme celle-là, ça peut durer très très longtemps. Et là, on a vu, ça fait 26 ans, comme le disait Lula, que l'accord commercial avec le Mercosur est sur la table et qu'il est en discussion et en négociation. Et il n'y a toujours pas d'accord entre les Européens. Pourquoi ? Parce que les intérêts des uns et des autres ne sont pas alignés. On est 27 économies qui ont des profils différents. On sait que l'Allemagne, elle, est une économie qui exporte beaucoup et qui mise sur ses exportations.
Pas exactement les mêmes produits que la France, enfin, c'est plutôt les produits agricoles.
L'Allemagne exporte des automobiles, des machines, de l'industrie, hein, à une industrie assez puissante, assez forte. Et la France mise beaucoup sur son agriculture, qui représente 14% de ses exportations. Donc c'est très important pour nous. Et puis on a au milieu l'Italie qui est un pays qui a à la fois de l'agriculture et à la fois de l'industrie dans le nord et qui dont on voit que la position est plus compliquée, plus difficile.
Mathilde Dupré, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on a un peu trop anticipé la cohésion des Européens? Que révèlent ces dysfonctionnements dans cette négociation avec le Mercosur sur les failles de l'Union européenne?
Mais c'est normal qu'il y ait des intérêts un peu différents entre les pays dans les secteurs offensifs et défensifs pour les négociations commerciales. Ça, je pense que c'est quelque chose que l'Union européenne pourrait savoir parfaitement gérer. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que on est sur des accords qui sont négociés dans la plus grande opacité. L'accord avec les pays du Mercosur, le mandat de négociation a été tenu secret pendant des années et des années. Il a été fuité il y a peu, mais la feuille de route de la Commission européenne pour négocier était tenue secrète. Et du coup, c'est très difficile dans ces conditions d'avoir un débat public serein et informé, et que toutes les parties prenantes qui ont une expertise à faire valoir dans la négociation, y compris sur les questions environnementales, biodiversité, climat, etc., puissent abonder en temps utile. Et après, du coup, on se retrouve avec un accord qui fait des milliers de pages, qui est à prendre ou à laisser, dans lequel on ne peut plus changer véritablement des lignes.
Pardonnez-moi, Mathilde Dupré, de vous interrompre. Vous parlez d'une opacité dans ce fonctionnement de la Commission européenne. Ça veut dire aussi que, alors c'est quelque chose qu'on a pu beaucoup lire dans la presse, que la présidente de la Commission européenne aura pu profiter d'une certaine faiblesse de la France, en l'occurrence, puisque Emmanuel Macron n'a plus de majorité à l'Assemblée nationale. Ça, c'est quelque chose aussi qui rejoint votre constat?
Ce qui est certain, c'est que les États qui ont le plus envie de ratifier rapidement cet accord ont espéré que l'affaiblissement du président de la République sur la scène nationale se traduise aussi par un affaiblissement au niveau européen et que la France, du coup, ne puisse plus rallier d'autres pays membres à sa cause. Donc, on a vu qu'il y avait une forme d'empressement pour essayer de passer en force sur la ratification. Et d'ailleurs, en plus, on a changé les règles du jeu de la ratification en cours de route, puisqu'au départ, c'était un accord qui devait être un accord ratifié à la fois par le Conseil et le Parlement au niveau européen, puis par l'ensemble des États membres, parce que ça devait être un accord d'association avec à la fois un volet politique et de coopération et un volet commercial. Et comme la Commission européenne a eu peur de rejouer ce qui s'est passé au niveau du CETA, l'accord avec le Canada, elle a fait le choix de découper l'accord, contrairement à ce que les États membres avaient demandé au sein du Conseil en 2018, pour qu'il puisse y avoir un accord intérimaire sur le volet commercial qui ne soit validé que par le Conseil et le Parlement au niveau européen, et qu'ensuite la ratification par les États membres se fasse sur le volet politique, mais que ça ne mette pas en péril la mise en œuvre du volet commercial. Et encore une fois, c'est peut-être tout à fait légitime de ratifier un accord de commerce avec les seules institutions Conseil et Parlement, mais là, c'est pas ce qui était prévu au départ.
Oui.
Et pour que ce soit véritablement accepté dans chacun des États membres, encore faudrait-il qu'il soit possible en temps utile de débattre du contenu de l'accord et de faire des propositions pour éventuellement en modifier le contenu si le compte n'y est pas, notamment
alors justement,
par rapport aux engagements sur la durabilité.
En attendant de débattre, justement, Mathilde Dupré, je vous propose de revenir à Bruxelles il y a quelques jours, le 18 décembre dernier.
Il y a des produits phytosanitaires, par exemple, qui sont interdits chez nous, qui sont encore employés là-bas. Et les produits qui sont produits là-bas sont réimportés chez nous. Mais bon, là, ça ne va pas. On ne sait pas faire face à ça. Quoi.
On nous a demandé une durabilité. On a amélioré l'agriculture, beaucoup plus durable et tout. Et maintenant, on ne veut plus de nos produits. C'est quand même pas normal.
Dans une ère où il y a beaucoup d'insécurité dans le monde actuellement, je pense que la souveraineté alimentaire est quelque chose de très important. Et je pense que l'Europe devrait nous soutenir beaucoup plus que ce qu'ils font actuellement.
Voilà un petit florilège par notre réalisatrice Margot Page de propos entendus sur les tracteurs des manifestants à Bruxelles. Une dizaine de milliers de personnes à peu près qui étaient réunies dans la capitale européenne. Alors avec ces propos d'agriculteurs, Jean-Luc Demarty, j'aimerais qu'on s'arrête sur la situation particulière de l'agriculture française. On aura compris que ce projet d'accord avec le Mercosur n'est pas exclusif à l'agriculture, mais cette crise révèle-t-elle en creux les problèmes structurels de l'agriculture française, Jean-Luc Demarty.
Oui, mais avant cela, je voudrais répondre à Madame Dupré rapidement.
Alors, voilà.
Sur la question
de l'obscurité. Il ne reste pas beaucoup de temps, malheureusement, cette émission, mais je vous en prie.
Non, mais je vais être très court sur l'obscurité de la négociation et sur la question de la majorité qualifiée et seulement le Parlement européen, donc parce que c'est une compétence exclusive. Donc sur l'obscurité de la négociation, la Commission rencontre très régulièrement au Conseil des négociations avant, après, au Parlement européen aussi. Donc évidemment, c'est pas complètement sur la place publique, c'est normal, on négocie pas sur la place publique. Et en ce qui concerne les mandats de négociation ont été très longtemps effectivement tenus secrets, ce qui était totalement ridicule, mais c'était pas la Commission européenne, c'était le Conseil qui bloquait cela. Et depuis maintenant de nombreuses années, enfin 7-8 ans, depuis le Canada, je veux dire, les mandats de négociation sont rendus publics. Donc il ne faut pas dire qu'ils sont pas publics. Et deuxièmement, sur la structure de l'accord, le mandat de négociation de 99 que Madame Dupré doit avoir puisqu'elle est rendue publique, mentionne déjà la possibilité d'avoir une ratification séparée pour ce qui relève des compétences européenne exclusive, c'est-à-dire le commerce. Alors, la différence avec le Canada, c'est qu'on a eu depuis un arrêt de la Cour de justice qui a confirmé, en gros, que tout accord avec un objectif commercial sociale était de compétence exclusive, quel que soit son contenu. C'est un peu plus compliqué, mais ça revient à ça. Ce qui n'était pas le cas au moment du Canada. Donc, je referme cette parenthèse.
Alors, parenthèse refermée. Donc, pour l'agriculture française, voilà.
Alors, pour l'agriculture française, alors. Bon, tout d'abord, tout le monde va gagner à cet accord, y compris la France. Je voudrais rappeler que la France a 4,5 milliards d'excédent commercial en matière de biens et de services avec le Mercosur. Donc, elle va gagner sur l'aviation, sur le luxe, sur tout ce qui tourne la santé. Elle va gagner sur un certain nombre de choses en matière industrielle. Et aussi sur un certain nombre de produits agricoles. Et aussi sur les services où elle est bien meilleure que l'Allemagne. Donc maintenant, venons sur l'agriculture. Le problème, effectivement, c'est que l'agriculture française est en crise. Et l'agriculture française est en crise parce qu'elle est la victime de 15 ans de politique agricole désastreuse menée par tous les gouvernements français qui ont complètement tué la compétitivité de l'agriculture française. Suivant d'ailleurs le type de politique, pas complètement, mais que recommande Madame Dupré. Si on avait suivi le Green Deal jusqu'au bout, en matière agricole, c'était 15% de production agricole en Europe en moins. Donc, bravo pour la souveraineté alimentaire que mentionnait tout à l'heure un agriculteur et que moi je soutiens. Donnons quelques chiffres. Entre 2010 et 2024, le revenu agricole réel par actif non salarié, donc qui est représentatif du revenu d'exploitation, mais pas par actif familial, n'a progressé en France que de 15%. Et en moyenne européenne, 77%. En Italie, plus 170%. Et entre 1993 et 2010, c'est l'inverse. Quand j'étais directeur général de l'agriculture, et là, le revenu agricole français a progressé de 65% et le revenu agricole européen de 38%. Donc on voit bien qu'il y a un problème. Ce qui fait les gros titres aujourd'hui, c'est que le commerce agricole agroalimentaire français pourrait être déficitaire cette année pour la première fois depuis 78, depuis près de 50 ans. Et c'est intéressant de rapprocher ça de l'Italie. L'Italie qui a toujours été déficitaire sur le plan agroalimentaire depuis des décennies, depuis la création de l'Union européenne, depuis 62, elle a toujours été déficitaire en matière agroalimentaire. Et pour la première fois, elle va cette année être excédentaire. Donc on voit bien qu'il y a des politiques différentes qui donnent des résultats différents et les résultats français sont absolument lamentables. Alors on n'a pas le temps de s'attarder pourquoi.
On n'a pas le temps malheureusement.
Alors, ça ne va pas du tout.
Mathilde Dupré, quelques mots si vous voulez bien sur les craintes de ces agriculteurs. Sont-elles justifiées, sont évidemment très variables selon les filières, mais ça montre au moins qu'il y a une détresse autour de ces questions.
Ce qui ressort beaucoup dans les manifestations et les pancartes et les slogans qui ont été brandis, c'est l'absence de cohérence. Et on voit bien que on est dans un moment où l'Union européenne doit faire des choix, et notamment si l'Union européenne veut tenir les engagements auxquels elle a pris part au niveau international. Que ce soit en matière de climat, en matière de biodiversité, il y a des choses à changer, y compris dans notre propre modèle agricole, et que ça plaise ou non à Monsieur De Marti, les objectifs du Green Deal visaient à changer et à mettre l'agriculture européenne en conformité avec ses engagements en matière de durabilité. Donc oui, ça peut avoir un impact sur le volume total de production, mais c'est plein d'études qui montrent que on est tout à fait en mesure de continuer à produire ce dont on a besoin pour la consommation, mais en changeant certains paramètres du modèle, y compris les paramètres sur la consommation, par exemple, de produits animaux. On en mangeait peut-être moins, mais mieux. Consommer, du coup, des produits de meilleure qualité, produits plus durablement et avec un prix qui permette de peut-être mieux rémunérer les agriculteurs. Le problème, c'est que on voit qu'il y a des tergiversations et que si on augmente les exigences en matière de durabilité, sur l'utilisation des pesticides, sur les pratiques agricoles, etc., et qu'en même temps, on ouvre les frontières à des produits qui ne respectent pas du tout,
En quelques mots, si vous voulez bien, il faut vraiment conclure, Mathilde Dupré.
Ça ne peut pas fonctionner.
Ouais. Alors, grand merci à tous les trois, vraiment, pour ce débat qui était passionnant, qui était vif, qui était animé, mais qui continuera évidemment sur notre antenne ces prochaines semaines et ces prochains mois. Merci donc à tous les trois, Mathilde Dupré, Jean-Luc De Marti, Alain Guillemolle. Merci à toute l'équipe de Questions du Soir. Cette émission a été préparée par Anouk Sévenot et Stéphanie Villeneuve. Dans quelques minutes après le journal, Questions du Soir, l'idée avec le chercheur Mathéis Gardenier pour parler des dérives possibles du phénomène des voisins vigilants. Mais pour l'heure, vous retrouvez le journal de la rédaction avec vous, Camille Marigaud, dans quelques instants.